Alors voilà quelqu'un qui ne pollue pas du tout, ou si peu que c'est vraiment à donner en exemple. Et oui, une telle personne existe, c'est un spécimen rare. C'est Alexia Barrier, la navigatrice en solitaire. Bonsoir Alexia.
Bonsoir.
Alors vous avez tenté le tour du monde en solitaire, départ c'est quand, c'est le mois prochain?
Tout à fait, le 11 janvier
le
de
11
Monaco.
Janvier de Monaco. Et vous êtes totalement autonome sur votre voilier?
Oui, tout à fait. En fait, j'ai équipé mon voilier avec des panneaux solaires et un hydrogénérateur. Malheureusement, je suis obligée d'embarquer un peu de gasoil parce que parfois il n'y a pas de soleil et parfois mon bateau va trop vite, donc je ne peux pas l'utiliser.
Hydrogénérateur, ça veut dire que vous dessalez l'eau de mer?
Non, hydrogénérateur. Vous voyez une éolienne?
Oui.
C'est la même chose.
C'est le petit machin qui tourne.
Ça tourne dans l'eau.
Ah, ça tourne dans l'eau.
Voilà, et ça produit de l'énergie. Le désalinisateur, je l'utilise aussi, bien sûr, parce que je n'embarque pas la quantité d'eau nécessaire pour un tour du monde en solitaire.
Donc l'hydrogénérateur, c'est une sorte de turbine, si
tout
je comprends
fait.
Bien.
Hein, c'est l'éolienne qui va dans l'eau, hydrogénérateur.
Ça fait combien de temps que vous naviguez?
Depuis l'âge de 3 ans.
Et depuis combien de temps en solitaire?
Depuis 5 ans.
Vous avez vu les océans se dégrader ou est-ce que c'est manifeste quand on prend la mer comme vous et qu'on fait le tour du monde?
Écoutez, c'est une bonne question. Moi, je passe à peu près 200 jours par an sur l'eau, sauf cette année parce que j'ai dû m'occuper du projet For My Planet. Mais c'est vrai qu'on voit des choses assez atroces. Alors, plus ou moins qu'il y a 5 ans. 5 ans, c'est quand même une période assez courte. Mais on voit des plaques de déchets innommables au large à 2000 milles des côtes alors qu'il n'y a pas âme qui vive, mis à part les poissons, les baleines et les animaux marins. On voit également en arrivant à terre des nuages atroces, jaunâtres, marronâtres quand on s'approche des villes, et la première odeur qu'on a en arrivant au port ou après une course par exemple, c'est pas l'odeur de la terre, c'est l'odeur de l'homme, et pas l'odeur de l'homme, c'est l'odeur des voitures. Et ça, si vous voulez, ça m'a fait réagir et ça m'a fait dire qu'il fallait essayer d'agir. Et c'est pour ça que j'ai créé ce projet For My Planet.
Alors For My Planet, c'est l'association qui vous soutient et que vous soutenez. Vous avez un but bien précis en faisant ce tour du monde. Qu'est-ce que vous voulez prouver, quoi?
Qu'est-ce que je veux prouver? For My Planet, c'est un projet que j'ai créé et qui soutient les valeurs du sport, de l'environnement et de la transmission du savoir, de l'éducation. Les meilleurs messagers pour les questions environnementales, pour moi, sont les enfants. Ils sont vraiment conscients des problèmes que cela peut causer pour leur futur parce qu'ils sont complètement impliqués et ce sont les premiers touchés par ces problèmes. Donc ils éduquent leurs parents. Donc c'est pour ça que je veux parler aux enfants.
Vous avez Lionel Péan qui vous soutient?
Tout à fait. Lionel Péan est un navigateur de talent, un project manager talentueux également. C'est le seul marin qui a gagné un tour du monde en équipage à la voile et il a également une fondation pour la préservation des océans.
Comment ça va se passer ce tour du monde? Vous passez par quoi?
Alors,
quelles étapes? C'est en solitaire, mais vous avez quelques étapes.
Voilà, tout à fait. Ce n'est pas un tour du monde en course, ce n'est pas un record. C'est un tour du monde qui a pour objectif premier de faire des prélèvements sur l'eau en surface pour les scientifiques américains du NOAA et la société Sea Keepers aux États-Unis et les scientifiques français. Donc, je pars de Monaco, je m'arrête à Cape Town, puis à Auckland. Ensuite, ce sera Rio, New York et retour à Monaco avant les grandes vacances scolaires.
Alors, si vous avez un pépin, qu'est-ce qui se passe?
Comme,
croise les doigts, bien entendu,
mais... comme tout marin solitaire, je dois pouvoir me débrouiller toute seule. Donc, en général, j'arrive à me débrouiller toute seule. Il m'est arrivé plein de misères en bateau, mais que ce soit physique ou matériel, je m'en suis toujours sortie.
Alors justement, vous m'avez dit que vous preniez des cours de couture assez spéciaux.
Ah oui, alors j'ai eu la chance d'assister à une intervention, une opération de la hanche à l'IM2S. Vous allez dire, quelle chance c'est, j'ai allé à moitié folle celle-là. Mais en fait, c'est pour démystifier l'acte opératoire. Parce que si je m'ouvre ou si je me fais mal, si je me blesse en bateau, il faut que je sache me réparer toute seule.
Alors, quel cours de couture vous avez pris?
Eh bien, j'ai recousu une escalope de veau, donc je ne l'ai pas fait très mal. J'ai eu mon diplôme de couturière.
Donc, si vous avez un problème, c'est vous qui allez vous
recoudre. Tout à fait, oui.
Recoudre.
Mais c'est ça qui est important en bateau, c'est qu'on a des ressources qui sont minimales parce qu'on n'a pas de supermarché sur la route. Moi, je rends mon eau potable grâce au désalinisateur, je produis mon énergie et je veux, par ce tour du monde, montrer aussi qu'on peut être heureux sans consommer. Et en étant en mer, c'est un magnifique exemple.
Oui, vous dites sans consommer, c'est pas tout à fait vrai parce que vous êtes fait choyer par les chefs monégasques.
Ah oui, c'est vrai. La Société des Bains de Mer est un de mes partenaires. J'ai eu l'audace de lancer un défi au chef de la SBM de me faire un petit plat pour le dimanche. Ce sera l'art de vivre à bord le dimanche For My Planet. Et Jacques Aubertier du restaurant L'Hirondelle, donc des Thermes Marins, a relevé le défi et m'a préparé des petits plats.
Et vous avez demandé quelque chose à Marion Gandon, qui est le chef du Fermont?
Non, on s'est concentré concentré pour le moment sur un restaurant, mais on va le faire. J'ai encore,
la prochaine fois.
Voilà, j'ai deux autres tours du monde après celui-ci, donc on a le temps de se mettre en place.
Merci Alexia Barrier. Merci. On vous souhaite très bonne chance. Donc vous partez le
11 janvier.
Le 11 janvier, on sera là pour vous
merci
dire
beaucoup.
Bon vent. A tout de suite avec nos hôtes. Voilà, vous avez épinglé sur la poitrine quelques décorations assez intéressantes, Laurence Chartier. Laurence Chartier, elle est présidente du comité vert du Fermont Monte Carlo, qui nous fait l'amitié de nous recevoir ce soir au bar de l'Horizon. Alors, Laurence, l'année dernière, le Fermont a été lauréat Grandes Entreprises du prix Développement Durable décerné par la Jeune Chambre économique de Monaco. Votre hôtel a signé la charte sociétale de cette même jeune chambre. Vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça ?
Oui, en fait, bonsoir. Nous avons suivi le mouvement de la maison mère au Canada, puisque Fermont est une chaîne canadienne. Et tout naturellement, nous avons mis en place un comité vert à Monaco quand l'hôtel a été racheté. On a été confronté à un réel engouement des collègues qui attendaient vraiment un tel mouvement en interne. Donc on a rapidement obtenu 27 adhésions en tant que membre de ce comité. Et puis je voudrais rappeler que la chaîne Fermont a été la première chaîne canadienne à concrétiser une philosophie environnementale avec un programme de partenariat environnemental en 1990.
Ça veut dire que les Canadiens sont un peu plus en avance que les,
oui,
que les Français sur cette
affaire-là. Oui, un petit peu. Oui. Les bâtiments, les propriétés piliers au Canada sont très en avance au niveau préservation de l'eau.
Alors on va être concret. Copenhague, ça va changer quoi dans le fonctionnement tous les jours d'un palace comme le Fermont ? Est-ce que ça va changer quelque chose d'abord ?
J'ai envie de dire non et en même temps oui. On aimerait avoir beaucoup de réglementations, de choses qui encadrent un peu plus nos démarches et qui nous les facilitent.
Apparemment, ce n'est pas le cas. Mais enfin bon, on ne sait jamais, la réunion n'est pas finie.
Voilà, on va continuer de toute façon sur la même lancée, continuer nos actions en entreprenant de nouvelles et essayer de devenir un exemple encore plus fort pour créer l'unité.
Le prix que vous avez reçu l'année dernière, à quoi vous engage-t-il ? Sinon, à quoi vous oblige-t-il ?
C'est pas vraiment une obligation, si ce n'est envers soi-même. J'estime qu'on doit avoir un discours honnête face à ses actions et assumer ce qu'on fait. C'est pas une obligation, non, c'est pas contraignant, c'est juste après un suivi. Pour l'année de docte, on a eu un premier bilan l'année dernière avec 286 questions. Donc ça a impliqué tous les départements en interne. Je suis allée à la pêche aux infos, ça a obligé tout le monde à mettre les pieds dedans.
On vous accueille bien ?
Oui, oui, oui. Oui.
C'est la jeune chambre économique de Monaco
qui suit. C'est
la
jeune chambre économique qui suit ce dossier, qui a mis ça en place, et ça évolue tous les ans. Donc des rendez-vous de suivi, j'ai pas envie de dire contrôle parce qu'ils demandent pas de justificatif. On fournit ce qu'on veut fournir.
On a plutôt l'impression que la notion de palace et celle de développement durable, c'est un peu antithétique. Apparemment, ce n'est pas votre point de vue.
Non, au premier abord, on pourrait dire ça, mais les responsabilités sont les mêmes, puisqu'on met en place la même chose qu'on fait chez soi. On préserve l'eau, les énergies, on trie nos déchets.
Et vos clients, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Est-ce que ça les intéresse ou est-ce que, franchement, pas vraiment ?
Ils le voient, mais c'est très discret. On essaye juste de les guider, donc c'est vraiment des petites notes de rappel, des petites documentations, la climatisation qui se ferme quand la fenêtre de la chambre est ouverte, par exemple. Donc effectivement, ils nous appellent, pourquoi la clim ne marche plus ? Ben, la fenêtre est ouverte, monsieur. Donc ils en déduisent qu'on fait des économies et qu'on évite de gaspiller inutilement à ce niveau-là.
Et vous arrivez à satisfaire les exigences qui sont, on peut le présumer, sans doute assez fortes de vos clients ? Et puis les économies d'énergie, par exemple ?
Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment dans la discrétion. Il ne faut pas perdre de confort pour eux. C'est primordial. On est dans un hôtel de luxe. Donc la priorité, c'est le client. Après, par exemple, au niveau économie d'énergie, la chaîne a mis en place au mois de juin 2009 un programme de réduction de gaz à effet de serre. Et on a une politique au niveau des ordinateurs, par exemple. Au bout d'une heure d'inactivité, ils se coupent tous dans toute la chaîne, quel que soit l'endroit. Et de ce programme, on va générer une économie de 2 millions de kilowattheures, et ce qui va représenter 3 200 barils de pétrole qui ne seront pas brûlés grâce à ça, par exemple.
Vous avez aussi une action de sensibilisation vis-à-vis de votre personnel qui vous accueille bien ?
Qui nous accueille bien, on leur...
Je présume qu'ils ont du travail. Est-ce que vraiment, ils ont le temps de faire ça, quoi ?
Oui, c'est un petit effort de plus. En fait, c'est éduquer, c'est vraiment, comme on a dit précédemment, éduquer nos collègues, leur montrer que ça ne prend pas plus de temps de jeter la bouteille ici ou à côté. C'est des rappels. On est très bien accueillis.
Développement social et équitable dans la gestion du personnel, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire pas de discrimination aux embauches, respecter toutes les cultures, proposer des formations qui soient épanouissantes pour les collègues à tous les niveaux, leur proposer des actions en bénévolat en interne pour les faire s'épanouir encore plus, comme le comité vert par exemple, puisque c'est une fonction en plus de mon rôle dans l'hôtel. Et on a plusieurs comités comme ça. Donc.
De base, le recyclage des déchets toxiques, tri des déchets, évidemment, ça vous le faites.
C'est bien sûr, avec les partenaires locaux.
Alors, on parlait tout à l'heure de Marion Gandon, donc le chef de réputation internationale du Fermont. Marion Gandon et le développement durable, ça traduit comment ?
C'est formidable parce qu'on n'a pas eu à le pousser dans la démarche. Oui, il a été tout de suite emballé et sa grande mission, c'est de proposer une cuisine citoyenne. Donc, pas beaucoup de déchets pour la nourriture que l'on reçoit des fournisseurs. Un retour aux fournisseurs des cagettes, par exemple, dans lesquelles on reçoit les fruits et légumes. Le jardin d'Antoine qui nous fournit en partie les fruits et légumes du restaurant. Des livraisons restreintes par rapport à tous les produits que nous recevons. Il y a un programme de livraison de façon à ne pas faire venir deux camions de tomates le même jour. C'est un peu ridicule.
Et puis des fonds de thon rouge.
Voilà, pas de thon rouge, pas d'espèces menacées servies au restaurant.
Merci Laurence, merci aussi au Fermont Monte Carlo de nous avoir reçus ce soir.
Merci à vous.
Merci à tous nos invités de nous avoir confié ce qu'ils ressentaient après cette conférence sur le climat. Un léger coup d'œil d'abord, avant de vous quitter complètement, sur cette conférence de Copenhague qui, vous le savez, n'est pas terminée. Céline Meinkeli a suivi les négociations pas à pas, de me donner un petit résumé très succinct que je vais vous donner maintenant. Les négociations sont prolongées encore pendant toute la nuit. La Chine ne veut pas d'ingérence dans ses affaires. Obama semble venu plus pour assurer son congrès qu'engager les États-Unis dans la communauté internationale. L'Europe continue son jeu d'ego, donc pas de consensus pour l'instant. On parle déjà de la prochaine réunion de l'ONU en novembre 2010 à Mexico. Donc, vous le voyez, les négociations sont plus orientées vers des combats politiques qu'autre chose. Un dernier merci à Inga et Hervé Pichat, qui nous ont permis d'être entendus sur le web. Sans eux, rien ne se ferait. Et puis, on se retrouve la prochaine fois sur le thème de la construction durable en direct de Batilux à Monaco. À l'année prochaine et bonne fête à tous.